Et on va parler de boxe tout à l'heure avec Ross Amber, de soccer avec Jérémy Filosa. C'était pas un match facile samedi et pas de bonnes nouvelles concernant l'état de santé de Nacho Piatti. Il ne reviendra pas au jeu pour les deux prochains matchs. On doit continuer de se débrouiller sans lui. Mais à l'instant, accueillons Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Alors, on va se mettre dedans pour les deux matchs éliminatoires ce soir. Deux matchs fort relevés en principe. En tout cas, je m'attends vraiment à des grands crus dans les deux cas. Mais si tu me permets, avant d'entrer dans l'actualité des séries éliminatoires, il y a d'autres formes d'actualité dans le monde du hockey. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de nominations. La première sur laquelle j'aimerais entendre ton commentaire, c'est cette embauche des Flyers de Philadelphie, de Michel Therrien par les Flyers de Philadelphie, lui qui s'en va travailler avec Alain Vigneault. De même que Mike Yeo, deux entraîneurs-chefs qui s'en vont comme adjoints d'Alain Vigneault dans l'organisation des Flyers. Quelle est ta réaction?
Ben, ma réaction, c'est que de plus en plus, écoute, les entraîneurs, je regarde ce qui est arrivé à Lindy Ruff. Il y a eu un passage à vide, évidemment. Tout le monde, quand tu es entraîneur, tu vas te faire congédier. Tu sais qu'à un moment donné, ça ne durera pas éternellement. Alors, le fait que Lindy Ruff accepte, c'est quand même un vétéran dans la Ligue nationale, un entraîneur émérite, accepte un poste d'entraîneur adjoint. Après, ça ouvre la porte. Tu sais, tout le monde, là,
il a pavé la voie, tu dirais, pour ceux qui en auraient fait une question d'ego, de dire non, moi, je peux pas accepter là, une job d'adjoint. Lui, il a déblayé le chemin, comme Jacques Martin le fait également avec Pittsburgh.
Oui, c'est un bon point. Je pensais pas à Jacques, mais j'aurais pu le placer également dans ce groupe-là. Et moi, je pense que ça, c'est porteur de succès. Je veux dire, les entraîneurs qui ont du bagage et qui sont prêts à le partager, c'est noble. C'est tout à leur honneur. Puis en même temps, d'être capable de t'entourer d'hommes forts, là aussi, c'est ça le leadership. Alors, je pense qu'Alain Vigneault, de ce point de vue-là, prend une excellente décision d'avoir un entourage de gars qui ont du bagage d'entraîneur-chef. Donc, quand ils regardent les choses, ils ne regardent pas les choses seulement comme un entraîneur adjoint. Et quand je dis ça, je ne diminue pas du tout la contribution des entraîneurs adjoints. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une perspective d'entraîneur-chef. Ça veut dire qu'on va quand même être capable de remettre en question, de brasser les idées et de s'assurer que la stratégie mise en place ou les choses qu'on va faire pour un match ou pour l'autre, c'est la meilleure des situations. Puis souvent, le leadership, ça laisse place à la solitude. Tu sais, quand c'est à la fin, Alain va être tout seul. C'est lui qui décide. Mais de travailler avec des entraîneurs qui ont déjà eu de l'expérience comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale et à plusieurs reprises, dans certains cas, je pense bien sûr à Michel, moi, je pense que ça, c'est bon. Puis, tu sais, là, on attend les choses. C'est des chums, ils jouent au golf ensemble. Ça, c'est une chose. Mais la business, c'est une autre chose. T'engages pas quelqu'un parce que c'est ton chum. T'engages quelqu'un parce que tu penses qu'il peut t'aider à avancer.
Et ça va loin également. Et parce que tu penses que tu peux aussi convaincre tes patrons que c'est une bonne embauche. Est-ce que je me trompe en disant ça? Parce qu'il faut t'évendre tes décisions. Et Chuck Fletcher a embauché Michel Therrien en 2010, après son séjour à Pittsburgh, comme dépisteur professionnel. L'a considéré comme éventuel remplaçant de l'entraîneur qui avait remercié à ce moment-là. Mike Yeo est devenu l'entraîneur-chef du Wild du Minnesota. Alors, comme tu vois, Chuck Fletcher devient le patron hockey et qui se retrouve là, des gars qu'il connaît. Alain Vigneault, je ne sais pas c'était quoi le lien qu'il avait avec Alain Vigneault, mais je parle avec les adjoints d'Alain. Fait que Michel était, comme on dit, padé ses deux côtés, connaissait Chuck Fletcher, connaissait Alain Vigneault. Puis en plus, je veux dire, c'est un gars dont les compétences hockey sont prouvées. Je pense que c'est un euphémisme que de le dire. Peut-être que le seul défi, parce que c'est sûr que le rôle, la personnalité que va emprunter un entraîneur-chef est bien différente. Comme, tu sais, il devient un peu le Kirk Muller. Je ne sais pas si ses responsabilités seront davantage défensives ou offensives. Michel,
non, il ne sera pas le Kirk Muller. C'est pas
le Kirk Muller. Regarde, je vais te nommer plein de noms. Là. Il va devenir comme Rick Bonus l'a été avec Alain Vigneault. Il devient. Je n'ai pas utilisé
mais dans
le bon
cas
nom.
De non, mais
Jacques
je
Martin,
blague.
Qu'est-ce qu'il représente à Pittsburgh? Pas en termes de personnalité, mais est-ce qu'il va devenir un gars qui va être plus doux avec les joueurs, lui qui est reconnu comme. Pour être un dur, disons-le, je pense.
Ben là, il n'y aura pas le choix. Là. Ben Lindy Ruff n'était pas un doux avec les joueurs non plus. Là.
Ben, c'est pas ça que Daniel Briand nous disait. Contrairement au fait qu'il ne sourit pas souvent, apparemment que c'est un gars qui était très apprécié des joueurs.
Mais... Il était apprécié, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il était apprécié qu'il n'était pas dur. Ça, la différence entre Lindy Ruff et Michel, c'est que Michel, il était plus... l'expression, là, « in your face », il était plus intransigeant. que Lindy Ruff. Mais les deux étaient très exigeants. Mais il y en a un qui était exigeant, mais qui prenait le temps de jaser plus. Il y en a un autre qui était plus intransigeant. Donc, il était plus direct, plus directif, plus, comme disent les Anglais, tout de pointe. Des fois ça plaît moins. Je pense qu'avec les joueurs plus âgés, c'est moins ça. Avec les jeunes, ça passe pendant un certain temps. Là, c'est complètement un autre rôle, une autre dynamique. Mais je suis convaincu qu'avant de confirmer, ben en fait, avant de confirmer l'embauche de Michel Therrien, je veux dire, Alain et lui ont une discussion. Là, c'est sûr que ça pas,
ben
c'est
oui.
pas de hey, tu t'en viens. Non, non, c'est.
Et Alain comment a vécu l'expérience avec Lindy Ruff aussi, donc est à même de constater que...
Ben ça, c'est un bon point, parce que tout à l'heure, moi, j'ai soulevé...
Il a testé, donc, cette relation-là avec un ex-entraîneur-chef.
Exactement. Moi, je soulevais cet exemple-là parce que je pense qu'Alain, en faisant ça, c'est quand même surprenant. Puis en même temps, c'est une force, ça démontre une force et une assurance. Puis ça envoie un bon message dans le vestiaire, dans l'entourage, c'est que au pied carré, il y a de la compétence, il y a de l'expérience.
Alors. Vraiment.
Avec ça, je pense que ça, c'est bon.
Michel Therrien, qui avait la possibilité de l'entraîner en chef en KHL et qui finalement décide d'accepter cette offre-là des Flyers de Philadelphie. Une autre nouvelle qui est tombée aujourd'hui, ensuite on ira sur les autres, mais oui. Mathieu Darche, qui s'en va directeur des opérations hockey du Lightning de Tampa Bay, est-ce que tu l'as vu venir?
Non, du tout. Et donc ça a sorti... Pour moi, c'est... Écoute, je sais que... Mais... Mathieu avait du potentiel, puis voulait faire ça, l'association des joueurs impliqués. Bon, mais de se retrouver là, actuellement, dans le contexte, c'est encore une fois, c'est une bonne embauche, c'est un ancien de l'organisation, c'est un gars qui a du vécu, il a passé par les rangs mineurs, c'est un gars qui a cheminé, là. C'est pas, il l'a pas eu facile pour atteindre la Ligue nationale comme joueur. Donc, dans son rôle, je pense que ça va teinter ses décisions et son approche auprès des joueurs. Puis, il y a une bonne chimie, certainement, avec l'organisation et avec Julien Brisebois.
Donc, voilà pour Mathieu Darche, Michel Therrien. D'autres annonces, elle n'est pas encore officielle, mais là, ça circule partout sur les fils de presse. Ken Norland, nommé directeur, vraisemblablement même VP hockey, sera nommé là, d'une minute ou d'une journée à l'autre des Oilers d'Edmonton. La semaine passée, quand la rumeur a été ébruitée, déjà, on commençait à se faire une opinion. Puis moi, tu disais peut-être quelque chose qui ressemblait à ça. Est-ce que c'est vraiment le bon gars pour Edmonton? Des trois ces dernières années, ça n'a pas été tout à fait incroyable. Incroyable, beaucoup de mauvais contrats. Puis je me rappelle de l'opinion que j'avais quand Jim Rutherford a été nommé, lui qui quittait la Caroline pour aller avec les Penguins de Pittsburgh. Tu sais, je me posais le même genre de question en me disant, coudon, les années de Jim Rutherford, les meilleures années sont probablement derrière. Et il a prouvé, en tout cas moi, il m'a prouvé vraiment qu'il pouvait faire, qu'il a fait un excellent travail à la barre des Penguins de Pittsburgh. Alors, je ne sais pas trop où camper par rapport à Ken Holland chez les Oilers Edmonton. Toi, comment tu vois ça?
Ben déjà, avec Bob Nicholson, il y a de l'historique.
Alors, le Nicholson, tout le monde veut de l'historique avec les gens qui engagent, hein, Danny. On dirait.
Ben oui. Ben non, mais c'est normal. C'est normal parce que là, il y a une position un peu plus forte qui s'installe entre le président et le directeur général. Donc, ça place un petit peu en retrait les anciens qui sont omniprésents. Mais ça, c'est la même chose avec les Islanders, c'est la même chose avec le Canadien de Montréal, c'est la même chose avec les Oilers, c'est la même chose avec les grandes organisations. Les anciens, c'est l'ADN de l'organisation, donc ils sont omniprésents. Puis là, ben, tu veux pas les tasser de l'affaire, mais tu veux avoir un regard froid et distant sur ce qui se passe, sur l'état des lieux. Comment on va faire, puis tu veux pas avoir de distorsion. C'est la raison pour laquelle Ken Holland a dit, ben moi, je suis intéressé, mais ça me prend carte blanche. Il ne faut pas que j'ai 3-4 barrières à l'entrée. Je suis toujours en train de renégocier, de revisiter, de revoir, de rediscuter mes décisions finales avec différents groupes. Parce que, tu sais, quand même, c'est fort. Là. Il y a des gros noms autour. qui sont là.
Il a pu profiter du fait que Nicholson a probablement un genou à terre, parce que lui, depuis qu'il a quitté Hockey Canada pour venir diriger Oilers, c'est pas très, très flamboyant là, comme résultat.
Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis en même temps, ben, comme n'importe quel président, s'il veut avoir un certain succès, il faut qu'il s'accroche à quelque chose où il y a le sentiment qu'il y a une dynamique, qu'il y a une chimie, Il y a quelque chose de déjà installé, une relation de confiance. Puis je pense qu'avec Haaland, c'est ce qui l'a dirigé vers Haaland. Mais là, tu sais, je te dis ça très froidement de l'extérieur de la boîte. Là.
Non, mais je pense que ça
Je suis pas mal sûr que ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça, je pense, Danny. C'est comme ça pas mal que ça fonctionne. Et on verra des grosses décisions à prendre. C'est trop tôt pour spéculer sur quelle orientation il va donner aux Oilers d'Edmonton. Mais je pense que son défi, c'est de mieux entourer, évidemment, Connor McDavid. Quand un joueur de ce calibre-là, tu devrais pas traîner dans le camp ben des années.
Oui, mais en même temps, tu sais, ils ont eu plusieurs bons joueurs qui entouraient Connor McDavid. Il y en a eu plusieurs qui ont été échangés.
Aussi.
Des contrats hâtifs qui n'étaient pas nécessaires. On a consolidé des choses qu'on n'avait pas consolidées, on pouvait attendre. On a eu peur d'avoir peur là, du côté des Oilers. Fait qu'on a... Puis après, on a échangé ces gars-là en disant ben ils sont pas endurables, c'est des jeunes irrévérencieux. Puis là, ils vont ailleurs puis ils fonctionnent. Alors, ça nous ramène à la case départ. Laisse le temps faire les choses. Les jeunes sont jeunes. Et ils sont ce qu'ils sont. Alors, les générations changent, puis il faut prendre le temps de les développer, de les amadouer.
Mais
de
le dommage, c'est fait dans leur cas, parce que
mais dans ce cas-ci, ben oui. Non, mais pourquoi je dis ça, c'est que, à un moment donné, le repêchage, c'est une chose, là, mais comment, qu'est-ce que tu fais avec, ou c'est une autre chose?
Exactement, Danny. Et je te fais commenter tout de suite avant la pause, et ensuite, on enchaînera avec le hockey, les matchs ce soir. Bon, t'as vu de la façon dont ça s'est terminé le post-mortem, si tu veux, des Leafs de Toronto après l'élimination en première ronde contre les Bruins de Boston. Tout le monde est allé sur l'estrade, puis il y avait pas mal de flou qui ressortait de tout ça. On est intrigué de la relation qui règne entre Babcock et Dubas. Et là, il y a environ une demi-heure sur TSN, sort l'information suivante. Carl Dubas qui confirme que Mike Babcock sera de retour comme entraîneur-chef des Leafs. Et on le sait qu'il lui restait plusieurs années de contrat.
4 ans.
Et donc, es-tu étonné qu'il ait eu... Ben, premièrement, il s'est mis dans une situation d'avoir à le redire, donc de dire hey, « Mike Babcock revient ». C'est un peu, entre guillemets, humiliant, mais pas au sens péjoratif du terme pour Babcock. Et la déclaration de Dubas qui est relevée sur TSN, c'est « We're all in on Mike, and Mike is all in on us ». Alors, nous autres, on est vraiment... Ben, c'est ça. Ça dit ce que ça dit. Je vais même pas
mais traduire. C'est parce que... Non, mais écoute, je suis content que tu soulèves ça, parce que moi, ça m'a un peu fait rire quand j'ai vu ça, parce que dans le fond, Dubas, il avait dit « Je vais être évalué ».
Oui.
Et quand je serai évalué, je pourrai, moi, ensuite passer à l'autre étape.
Et donc, peut-être que Babcock a contribué à l'évaluation de Dubas, tu penses?
Ben, peut-être, mais une affaire qui est sûre, c'est que Dubas, lui, après, comme il est en titre, c'est à lui, après, à confirmer, parce qu'il a comme ouvert la porte à ça, comme tu disais tantôt, puis tu as tout à fait raison, avec justesse. Fait que là, lui, il est obligé de revenir et dire, finalement, j'ai eu mon meeting, je suis confirmé, et je confirme Mike. Donc là,
tout le monde se confirme.
We're all in together.
Ouais.
Mais tu sais, c'est un peu ridicule.
Oui.
Parce que ça prouve une chose. Ça prouve que
c'est fragile.
Non, mais non. Je vais te dire ce que ça prouve. Ça prouve qu'on a donné trop de pouvoir à l'entraîneur.
Est-ce que ça prouve seulement ça?
Seulement ça.
Ouais.
Ouais.
Où on n'a pas de trop, accès au DG pour qu'il soit obligé d'attendre d'être confirmé ou il était malhabile.
Trop de pouvoir à l'entraîneur. Le titre de l'entraîneur, le contrat de l'entraîneur, tout ça. Là,
oui.
À un moment donné, là, hey, le jeune, là, c'est un jeune homme. Là, oui. Il est dans une marmite incroyable.
Oui.
Je trouve qu'il fait un travail remarquable. T'sais, il y a beaucoup d'aplomb. Tu vois, écoute, c'est une situation extrêmement difficile.
Puis il n'y a rien comme résultat que Dubas peut nous jeter à terre à date, je trouve. Mais je t'écoute.
Non, mais je te parle de composer avec la pression médiatique, avec tout ce que ça comporte.
Oui.
Les résultats, il y a du travail à faire. Là, puis écoute, ils se sont royalement plantés dans certaines décisions, mais ils ne sont pas les seuls.
Non. Non, c'est sûr qu'ils sont pas les seuls. Mais drôle de situation. On verra ce que l'avenir réserve aux Leafs de Toronto et à cette équipe de direction. Danny, courte pause. On est sur le point. D'ailleurs, la mise en jeu doit être effectuée. Je sais pas si c'est un téléviseur que tu regardes du coin de l'œil. Oui, le match est commencé. 5 minutes d'écoulé entre les Bruins et les Blue Jackets. C'est 0-0. San Jose, l'Avalanche un petit peu plus tard. Et on revient tout de suite après la pause que voici avec Danny. On poursuit. Ouais, de retour en compagnie de Danny Dubé. 0-0 entre les Bruins et les Blue Jackets. 13 minutes 14 encore à faire en première période. Ce fut une troisième période complètement folle dans le cinquième match entre ces deux équipes-là l'autre jour. Là, au diable, l'empreinte défensive, beaucoup de buts marqués en troisième période. Les Blues en sont sortis vainqueurs. Et là, ben, penses-tu que les Blue Jackets vont pousser ça au septième match en allant gagner à Boston ce soir?
Ben, en fait, les Blues de Boston, je pense, jouent la série ce soir. Parce que...
S'ils l'échappent, bye-bye?
Je pense que oui. La raison, c'est que je regarde, depuis le début de la série, leurs joueurs clés ont été meilleurs sur la route qu'à domicile, les Bruins. Puis là, ben, tu peux pas éternellement pousser ta loc, comme on dit chez nous. À un moment donné, là tu as une chance de vraiment fermer tout ça, clore le débat, gagner cette série-là. Si ça devait aller en 7, tu sais, les Bruins, là, c'est toujours les mêmes joueurs qui reviennent puis qui produisent, là. Alors,
tu dis ça, puis je pense au Lightning de Tampa Bay, match 6 et 7 contre les Caps de Washington l'an passé.
Oui. Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment que les Bruins trouvent une façon de fermer le dossier pendant qu'ils sont devant leurs partisans, là où ils excellent. C'est une des meilleures équipes de la Ligue, la deuxième, là, pour être plus précis, à domicile. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'on n'est plus en série. On n'est plus en saison, on est en série. Je comprends bien tout ça, là, mais à un moment donné, il y a des raisons qui expliquent les choses, là, tu sais. Et moi, non.
Mais est-ce que tout le monde va encore vanter la philosophie « all-in » appliquée actuellement? Puis je pense que les circonstances... Tu sais, s'ils perdent en deuxième ronde, t'as-tu vraiment gagné le jackpot? C'est comme... Ben, je me permets le parallèle, je l'ai fait avec Paulude un peu plus tôt. Oui. Au basketball, les Raptors sont all-in avec Kawhi Leonard, un joueur exceptionnel, mais tu sais, s'ils perdent en deuxième ronde, lui, il va signer comme agent libre ailleurs l'an prochain, probablement, il restera pas à Toronto, puis ils vont avoir perdu et DeRozan et Kawhi Leonard. Dans le cas de Columbus, on verra qui sont capables de retenir en leur offrant de beaux contrats. Mais tu sais, ce qui était très, très sexy il y a une couple de jours, quand il était en avance, dans une bonne position dans la série, va-t-il l'être encore s'ils sont éliminés ce soir? Les Bruins viennent de marquer, Danny, au moment où on se parle.
En avantage numérique, oui, c'est ça. Écoute, il n'y a jamais de garantie dans rien. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que pour leurs partisans, les Blue Jackets n'avaient pas le droit de liquider. Ils n'avaient pas le droit de laisser partir Bobrovsky et Panarin à ce point-là de la saison en se disant... Ça va prendre combien de temps avant qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là? Tu sais?
Comme les Expos 94.
Ben,
eux autres qui ont tout liquidé. Ça, ouais. Ben non, mais ça a tué presque la concession tout le coup. Ça a dû voter pendant une couple d'années après, mais le lien affectif était mort.
Exact.
Ou presque.
Alors, moi, je pense que les dirigeants ont eu le bon réflexe. Maintenant, est-ce que ça va se matérialiser? Quand tu arrives en série, tu n'as jamais de garantie, là.
Non.
Et écoute, juste les Stars de Dallas, là, sont allés chercher Zuccarello, il s'est blessé, il a pas joué de la fin de la saison. Mais ils ont quand même envoyé le bon message en allant le chercher. Puis là, ben.
Un message que tu n'as pas entendu à Montréal résonner très fort, même si on s'est réjoui. Mais, tu sais, quand Marc Bergevin, dans son bilan d'après-saison, nous mentionne que les stats de Jordan Will équivalaient à celles d'un gars comme Zuccarello et d'autres ailleurs dans la ligue. Est-ce que ça te satisfaisait ou pas encore vraiment?
Non, mais moi, j'ai aimé Jordan Will. Là. Trompons-nous pas. Là. Il amène une dimension, c'est intéressant, c'est de la profondeur. Mais le net-net...
Le message, là?
Tu sais, le net-net, c'est que les joueurs qui ont été amenés par Marc Bergevin, c'est des joueurs qui coûtaient pas cher. C'est des joueurs de soutien. Alors, un jour ou l'autre... Tu sais, là, on est devant une réalité qui est frappante. C'est que l'an prochain, pour le Canadien, la performance plancher, donc le minimum, c'est 96 points. Puis je sais que je dis ça en disant qu'il n'y a pas de garantie dans rien parce qu'on a vu des équipes qui ont eu 96 points, qui l'année d'après, comme les Panthers de la Floride, qui n'ont pas fait les séries et qui étaient au milieu de 80 points. Donc, tu sais jamais.
Les deux ont fait, les ont raté.
Exactement. Ouais. Donc, tout ça étant dit, il reste que les attentes vont changer. Et ça va ajouter quelque chose dans la cour du Canadien. Alors, pour cette raison, comme il y avait un momentum, comme il y avait une vague cette année, moi, j'aurais espéré. Zuccarello, c'est un joueur que j'avais identifié. Je t'en ai parlé à 2-3 reprises. On va pas commencer à faire le vire-capot. Je vais pas changer d'idée en cours de route. Je pense la même chose. Puis, qu'il soit ou qu'il soit pas en série, ça change rien. Moi, Zuccarello, c'est un joueur qui pouvait jouer, amener une dimension importante pour le Canadien, permettre aux Canadiens d'être meilleurs sur l'avantage numérique, donner de la profondeur parce qu'on n'avait pas de punch offensif sur le troisième trio. Surtout sur les patinoires adverses, donc peut-être un manque d'expérience, etc. Donc, Zuccarello amenait tout ça. Bon, ceci étant, écoute, il dit, c'est pas notre année, on va attendre. Parfait, c'est leur décision, c'est eux les patrons. Mm-hmm. Je dis simplement que la compétition est vive Et quand tu te retrouves dans une situation où tu penses que tu es sur une espèce de vague, des fois, ça vaut la peine d'essayer d'améliorer ton équipe. Puis encore là, on serait assis ensemble avec Marc Bergevin, puis il pourrait nous dire « Hey, la Caroline n'a pas fait de grosses transactions. »
Ben, ils ont fait Niederreiter.
Oui, mais c'est pas un joueur qui a de l'impact dans les séries jusqu'à maintenant. Tout ce que je veux dire, c'est que...
C'est pas un joueur vedette, mais...
C'est une équipe.
Tu sais, c'est ça que... C'est ça. On oublie, nous autres, on mise tout sur le nom, là, mais c'est ceux qui forment le meilleur club. Puis, tu sais, la Caroline, c'est une méchante bonne équipe. Puis, ils en ont fait des changements dans l'entre-saison qui nous ont fait sourciller, qui les ont pas fait bien paraître sur le coup. Prendre l'échange Michael Ferland, d'ailleurs... contre Lindholm qui était allé à Calgary. Lindholm a des méchants bons chiffres là, à Calgary cette année. Ferland, bon, tu sais, c'est pas concluant encore, mais ils ont changé quelque chose dans leur chimie de groupe. Ça fonctionne cette année, la Caroline. C'est bizarre à dire, ça s'explique pas. Jordan Staal a été blessé, il est revenu, ça a été ça leur acquisition de la date limite des transactions.
Exactement. T'sais, exactement. Puis en même temps, ben, tu sais que alors, on évalue vraiment la qualité d'une équipe sur quelques années. Tu sais, il se passe quelque chose cette année, mais si l'an prochain, la Caroline rate les séries, bon, on se dira, bon, ben, c'est un pétard mouillé.
Ben, s'ils gagnent la coupe, je pense qu'on pourra leur pardonner.
Non. Oui, là.
Non, mais tout est possible.
Ah oui, c'est sûr.
Tout est possible. Ça dépend qu'est-ce que tu vas chercher. C'est comme Columbus cette année. Ils misent tout sur une année. On ne sait pas quelles seront les conséquences à long terme.
Mais disons que si on regarde les chose froidement, je mettrais plus un petit 2 sur les Bruins que sur la Caroline.
Ben, et c'est là qu'on va peut-être se rendre compte lors du dénouement des séries, puis on n'est pas rendu là encore. Le but refusé aux Bruins de Boston, c'est une décision très controversée en ce qui me concerne. On a jugé qu'il y avait de l'obstruction. Ah non, c'est un hors-jeu probablement. Ça doit être un hors-jeu parce qu'on fait une mise en jeu en dehors de la zone, Danny. Parce que je ne trouvais pas qu'il y avait de la grosse obstruction là-dessus. Là.
Sur mon application, puis là c'était 1-0, puis là c'est 0-0. J'attendais que tu me dises quelque chose, moi j'ai pas vu le jeu. Là. Je suis devant mon micro.
Pas évident. Mais ça se pourrait donc si Caroline, on verra si Caroline et Columbus s'éteignent en deuxième ronde.
Je veux te parler de deux petites secondes de l'Avalanche. Puis
S'annoncer plus tard ce soir, 22h.
Exactement, parce que Bettner, le coach de l'Avalanche, a décidé de jouer avec 7 défenseurs. Il y a beaucoup de monde qui sont contre ça. T'sais. Puis moi, je trouve que c'est une excellente décision de sa part. Je trouve ça brillant. Parce que lui, il a une défensive qui est quand même assez jeune. Là, t'sais, il y a Sam Girard qui est là. Puis McCarr, il commence. Là, Et vraiment, là, c'est vitesse grand V. Fait que tu te dis, parfait, on va faire jouer 7 défenseurs parce qu'on a des gars qui ont peut-être moins de fiabilité, donc plus unidimensionnels. Fait qu'on va essayer de pallier à ça en rajoutant un dans l'alignement. Donc, on a 7 défenseurs. OK, ça va jusque-là. Mais l'autre chose, là, c'est que sur ton quatrième trio, là, tout à coup, tu peux lancer dans la mêlée à n'importe quel moment un de tes meilleurs attaquants jumelé à ton quatrième trio. Et moi, je pense que ça, dans les circonstances, avec ce qui anime les joueurs de l'Avalanche aujourd'hui, je trouve pas que c'est une mauvaise décision. Et des fois, dans l'année, tu peux dire, peut-être que c'est pas nécessairement facile pour les joueurs de composer avec cette situation-là. Mais là, tout à coup, là, t'as Derek Brassard, puis t'as Bourque, puis là, tu lances dans la mêlée, que ce soit Lindskog, que ce soit, en tout cas, les meilleurs, là, tu sais, bien sûr, McKinnon. Là, tout à coup, ça change la dynamique. Parce que Brassard, c'est quand même un joueur capable de produire offensivement.
Ouais.
Je pense que Gabriel Bourque peut jouer le rôle de celui qui est un peu le joueur qui va supporter les autres en défense. Le rover, tu sais, il est en arrière. Ouais. Puis allez-y les gars, moi je vais rester derrière. Puis je vais m'assurer de pallier en défensive. Là. Fait que non, écoute, dans les circonstances, c'est un petit quelque chose, ça amène une dimension intéressante.
Certainement. On a vu ça être utilisé comme stratégie à Montréal. Tu te rappelles des années de Mark Stride, puis il y en a eu d'autres.
Et les Hurricanes ont gagné la coupe avec ça.
Hurricanes ont gagné la coupe dans le temps avec ça, exactement. Alors, comme quoi, sais-tu quoi? Donc, il n'y a pas juste une recette pour gagner. Applique celle qui va te faire gagner.
Rien d'absolu, mon cher.
Oh que non. Humilité au rendez-vous dans ces séries 2018-2019. Puis je pense qu'on dit la même affaire pas mal de chaque année, finalement. Salut Danny.
Okay,
la boxe au retour. Bye bye. Bonne fin de match. Bye.
Merci.
Ross Embrough dans un instant.